Bonjour, bienvenue dans notre émission Vie de famille. Oui, nos émotions, c'est tout un programme. Quand surviennent-elles? Comment? De quoi dépendent-elles? Faut-il les exprimer, les réprimer, les contrôler? Y a-t-il de bonnes et de mauvaises émotions, entre guillemets? Aujourd'hui, j'ai invité Valérie Poubelle, qui est psychologue du travail. Bonjour Valérie Poubelle.
Oui, bonjour.
Alors, en tant que psychologue, les émotions, c'est votre rayon, si j'ose ainsi m'exprimer?
Oui, on pourrait dire que c'est un peu notre matière d'œuvre.
Voilà, donc vous travaillez là-dessus à longueur de journée. Est-ce qu'il y a une définition dans votre métier ou comment vous nommeriez ça?
Oui, alors une émotion, c'est avant tout une information utile sur notre environnement interne, c'est-à-dire notre état dans lequel on se sent, notre humeur aussi. Et puis, c'est une information sur l'environnement externe, c'est-à-dire comment l'environnement agit sur nous.
Donc, ça nous fait prendre conscience d'une interaction déjà.
C'est ça, tout à fait. Et puis, l'émotion, ça a toujours une fonction. Alors, en général, on cherche à éliminer les émotions dites négatives.
Et oui, c'est ça. Quand on dit gérer les émotions, en fait, c'est plus les émotions dites négatives. Alors, justement, je disais en introduction, bonnes ou mauvaises émotions, est-ce qu'on peut vraiment dire ça?
Alors, en fait, c'est plutôt, on pourrait dire, des émotions agréables et désagréables. Voilà. Parce que toutes les émotions ont leur fonction. Donc, en général, quand on déborde de joie ou d'enthousiasme, si on prend l'étymologie du mot enthousiasme, c'est enthousiasmos en grec, c'est transport divin. Mm-hmm. On ne va pas forcément avoir envie de contrôler quoi que ce soit.
En revanche, on peut comprendre que parfois notre enthousiasme puisse perturber l'environnement.
Oui, en effet, ça peut être un peu envahissant. Et par contre, les émotions dites désagréables, souvent on cherche à les refouler, à les éliminer, on considère qu'elles sont subalternes, inutiles, encombrantes. Et en fait, dans les catégories d'émotions, on a ce qu'on appelle les émotions primaires, donc qui sont au nombre de 4.
Oui, qui sont ?
La joie, la peur, la colère, la tristesse. Donc ces émotions, on les a complétées par le dégoût et la surprise. Et en fait, elles sont universelles, ces émotions-là.
Vous voulez dire que quel que soit le coin du globe ou la culture ou le mode d'habitat, c'est valable pour tout le monde?
Voilà, en effet, il y a un chercheur en psychologie qui est très connu, qui est Paul Ekman, qui a testé auprès de 15 cultures différentes sur la planète des photos exprimant des émotions et toutes les personnes appartenant à ces cultures différentes savent mettre des mots sur ces 6 émotions de base.
D'ailleurs, il y a une série à la télévision qui nous a bien montré ce genre de processus. Bon, d'accord, mais alors vous parlez là de la joie, mais aussi de la peur. Alors, on va plutôt peut-être dans un premier temps parler des émotions difficiles à accepter.
Voilà. Désagréable.
Désagréable. Oui. Alors, celles-là, on essaye de les gérer.
Oui.
Donc, comment on fait?
Alors, en fait, les émotions, pour les gérer, il faut d'abord comprendre leur fonction. Elles ont toutes une fonction.
Oui.
Si on prend l'étymologie du mot émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur, un mot verré, un mouvement vers l'extérieur. Mais ça peut être aussi un mouvement vers l'intérieur. Quand on est triste, par exemple, on va avoir tendance à se replier parce qu'on va avoir tendance à avoir besoin de réfléchir, à avoir besoin en quelque sorte d'aller en soi. Hein, c'est pour ça que je parle de mouvement intérieur.
Ouais.
Et puis, on a d'autres émotions comme la joie. Bon, ça, c'est pas une émotion désagréable, mais la joie permet d'aller vers, de partager, d'aller de l'avant. Parce que la joie, c'est aussi ce qui va donner de la motivation dans l'action.
Oui, c'est un moteur.
Voilà.
Mais, par exemple, la peur ne peut-elle pas être un moteur?
Alors, la peur, chez certaines personnes, peut être un moteur. En général, la peur, ça déclenche la fuite. L'idée, c'est de partir loin. Ou bien de se freiner, à l'inverse. On va arrêter une action parce qu'on a peur du vide, tout simplement parce que c'est dangereux pour notre intégrité.
Donc, il y a 3 types de réactions à la peur, si j'entends bien.
Oui, la fuite, qui peut être
salutaire.
Qui date du temps de l'homme des cavernes, quand on se faisait attaquer par un mammouth, il vaut mieux fuir. Après, il y a aussi l'attaque. Hein, ça, c'est autre chose. La peur peut déclencher l'agressivité et l'attaque pour se défendre.
Eh bien, oui, on sent peut-être qu'on se dit qu'on va pouvoir dominer l'adversaire et pas seulement l'émotion.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis, après, il y a se freiner pour éviter quelque chose.
Bon, alors ça, c'est pour la peur. Bon, d'autres émotions plus difficiles à accepter, enfin... Oui, c'est par exemple la colère aussi.
Oui, la colère, elle a une fonction qui est de se faire respecter, hein, d'aller contre, de montrer son désaccord. Mmh. Après, il y a comment on le montre. Hein. La colère, c'est quelque chose qui est souvent pas acceptable dans notre société. On considère que quand on est en colère, c'est parce qu'on ne sait pas gérer ses émotions. Mmh. Montrer qu'on est en colère et le dire, c'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, après, c'est comment on l'exprime.
Oui, par exemple, le petit garçon dans son bac à sable, là, si on lui pique son râteau.
Oui, alors, si on lui pique son râteau et qu'il veut donner un coup de râteau à la petite copine qui lui pique son râteau, on pourra lui expliquer qu'il a le droit d'être en colère, mais qu'il n'a pas le droit de taper sur la petite fille. Hein, parce que, en effet, ça devient de l'agressivité. Et là, on porte atteinte à l'intégrité physique de l'autre. C'est là où il faut savoir s'arrêter et lui expliquer...
Oui,
la limite.
Je pense que ce serait pas inutile d'expliquer ça à pas mal d'adultes. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, bah c'est sûr qu'on n'a pas tous appris à limiter notre action. Quand on est en colère, à transformer cette colère en agressivité, ça n'est pas en effet adapté. Hein, par contre, exprimer sa colère verbalement en disant qu'on est en colère parce que, en expliquant que on est heurté dans ses valeurs ou dans un besoin qui est de se faire respecter, c'est sans doute beaucoup plus utile pour s'adapter à la situation.
Oui, alors là, donc, en fait, vous êtes déjà rentré dans la gestion des émotions, puisque vous dites comment on peut réagir à la colère.
Oui.
Alors, d'une façon générale, comment justement gère-t-on les émotions qu'on ne devrait pas chercher à éviter, peut-être?
Oui, alors en effet, hein, l'émotion, c'est quelque chose qui nous submerge, elle nous tombe dessus. Hein, ce n'est pas quelque chose de contrôlé, justement, par nature. Donc, la meilleure façon de les gérer, c'est d'accepter qu'elles existent.
Alors, oui, excusez-moi de vous couper, parce que vous dites accepter qu'elles existent. Peut-être que certains auditeurs, en vous écoutant, diront « Eh bien, elle a bien raison, cette psychologue, mais en même temps, l'émotion est tellement forte que moi, je suis complètement tétanisée. »
Oui, c'est
donc,
vrai.
Donc, bien obligée de l'accepter. Mais au-delà, comment je fais?
Alors, je pense qu'il y a une différence entre subir et accepter.
Voilà.
Subir, c'est vraiment se dire que c'est une mauvaise chose et de ressentir les choses en disant « je ne devrais pas sentir ça ». Alors ça, c'est plus on va contre l'émotion et pire c'est. Parce que quand on va contre une émotion qu'on ne supporte pas de la ressentir,
ouais.
Parce que les émotions procurent des sensations physiques désagréables, hein, de rougissement, de tremblement, de transpiration, de sidération.
De souffle court,
souffle court, d'impression que les jambes vont se dérober et qu'on va tomber. Hein. Il y a plein de choses comme ça qui sont très désagréables.
Sans parler du regard de l'autre qu'on imagine sur soi.
Voilà, donc là, on va commencer à rentrer dans d'autres émotions dites sociales comme la honte, la culpabilité.
Bref, des tas de choses super agréables, on va arrêter là.
Donc déjà, c'est accepter de ressentir et se dire qu'une émotion, c'est comme une grande vague. Elle va nous submerger, mais elle va finir par se retirer.
En clair, vous êtes en train de nous dire, on la laisse venir. Et même si on a l'impression qu'il faut réagir très rapidement à l'événement ou à la parole qui nous est dite, eh bien, de prendre le temps de laisser l'émotion retomber.
C'est ça. Alors, ça peut être accéléré par des processus d'apprendre à respirer, hein, par la respiration. Par le fait d'accepter en effet le regard de l'autre, si on se met à rougir, bien c'est désagréable, mais finalement...
Bah oui, je suis rouge et voilà bien.
Voilà, je suis rouge, ça veut dire que je suis en vie, qu'il y a du sang dans mes veines finalement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a vraiment de ça, et puis après c'est apprendre aussi à différencier les émotions et à comprendre de quelle émotion il s'agit.
Oui.
Est-ce que c'est parce que j'ai honte? Est-ce que c'est parce que je suis en colère? Et c'est vraiment ça qui va être intéressant. C'est petit à petit, à force de bien vouloir les ressentir et s'arrêter sur elles, on va pouvoir mettre des mots dessus.
Et du coup, les identifier?
Oui.
progressivement de mieux en mieux, c'est ça ?
Oui, c'est ça, les identifier de mieux en mieux, pouvoir vérifier qu'elles sont adaptées, et puis les exprimer aussi. On peut très bien dire, bah, écoutez, là, je suis gênée de parler, cela me fait rougir, comme vous pouvez voir. Après, on peut l'utiliser aussi en situation ou quand on est en colère, dire, je suis en colère, je ne répondrai pas maintenant. Je répondrai plus tard.
Donnez-moi 2 minutes pour respirer. Alors évidemment, on a des réactions de ce type dans des moments particulièrement pleins d'émotions, justement pour nous, un entretien d'embauche. Enfin, voilà, mais peut-être que c'est important, vous, en tant que psychologue du travail, de se préparer à ce type de chausse-trappe-là.
Oui, on peut en effet déjà bien préparer le contenu de ce qu'on va dire, parce que quand on est dans un entretien, ce qui nous inquiète, c'est d'être pertinent, d'être performant, de répondre à la demande. Alors déjà, bien préparer le contenu pour pouvoir s'en libérer. Et puis après, apprendre des techniques de relaxation, de respiration avant. Et puis se centrer aussi, ça c'est un petit truc de psychologue, sur l'interlocuteur. Parce qu'en fait, quand on est submergé par ses émotions, c'est souvent parce qu'on cherche à être à l'intérieur de soi. On est centré sur soi et on cherche à comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ces sensations, on lutte contre. Et donc on est très intériorisé. Alors qu'en fait, si on apprend à se décentrer de soi et à se centrer sur l'interlocuteur, à écouter ses questions, essayer de comprendre ce qu'il veut exactement, ce qu'il attend, ça permet aussi de passer à autre chose.
Donc se raccrocher en quelque sorte à quelque chose d'objectif, quoi.
Voilà, c'est ça. Et du coup d'activer nos capacités intellectuelles et de raisonnement qui vont calmer le cerveau émotionnel, qu'on appelle cerveau limbique.
Bon, c'est un cerveau très primitif, si j'ai bien compris. Et en même temps, une fois qu'on... Enfin, à force d'accepter, de ressentir, de nommer, est-ce que ça ne nous aide pas à voir ce qu'il y a derrière les émotions, à quoi c'est relié ?
Oui, bien sûr. Une fois qu'on a compris un petit peu pourquoi telle émotion va s'activer dans telle et telle situation, on va pouvoir comprendre aussi à quel besoin c'est relié. Finalement, quand on ressent des émotions, c'est que derrière, il y a le besoin, alors je l'ai dit tout à l'heure, soit de partager si c'est de la joie, soit de se protéger si c'est la peur, d'être respecté si c'est la colère, d'être consolé ou d'être tranquille et seul si c'est la tristesse. Il y a toujours un besoin derrière.
Donc on voit que les émotions ont une fonction et qu'elles sont fort utiles, mais... Toutefois, il y a des pièges et c'est ce que nous verrons après une petite respiration. Je suis toujours avec Valérie Poubelle et nous parlons de la gestion des émotions. Vous disiez tout à l'heure, Valérie Poubelle, qu'il y a des pièges à éviter dans la gestion des émotions ou dans l'utilisation, entre guillemets, des émotions.
Oui, alors en effet, il y a des émotions qui nous poussent parfois à avoir un comportement inadapté. Ça, c'est lié à notre vécu et comment on a interprété les émotions étant enfant qu'on a ressenti. On a, par exemple, ce qu'on appelle le racket émotionnel. Ça, c'est tout le courant des gens qui utilisent l'analyse transactionnelle qui explique ça, où on va exagérer ses émotions pour obtenir quelque chose de l'autre.
Un genre de manipulation.
C'est ça, tout à fait. Par exemple, un enfant, vous parliez tout à l'heure de l'enfant dans son bac à sable, si l'enfant qui se met en colère contre la petite fille parce qu'elle lui a piqué son seau ou son râteau dans le bac à sable, et que les mamans se précipitent et viennent consoler la petite fille qui pleure et le petit garçon qui est en colère, on commence à lui dire « mais tu es un mauvais petit garçon, tu es en colère, c'est pas bien », lui va finir par interpréter qu'il ferait mieux de pleurer quand il est en colère, comme ça maman viendra le consoler et qu'il attirera plus l'attention comme ça. Donc il va pouvoir travestir un peu ses émotions et faire du racket en disant « dans le fond, si je suis en colère, je vais mettre à pleurer et comme ça on viendra me chercher, on viendra m'aider ». Et c'est pour ça que c'est important de rester juste dans l'émotion et d'expliquer aux petits-enfants qu'ils ont droit d'être en colère, mais ils ont une certaine façon à leur disposition de l'exprimer, certainement pas en étant agressif.
Oui, et alors quel est le danger pour les enfants, les gens à qui on apprend que la colère est... pas bonne et que finalement, il vaut mieux pleurer. Dans la durée, ça fait quoi, ça?
Bah, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont plus tellement comprendre leur comportement à un moment donné. C'est-à-dire que dans des situations où on va être en colère, on va se mettre à pleurer, ou dans les moments de vie où on ne se sent pas respecté, on va se sentir dans la tristesse et on peut petit à petit tomber dans la dépression et pas comprendre ce qui se passe en disant « j'ai aucune raison de tomber dans la dépression, pourquoi je suis triste ?» et du coup, on ne s'y retrouve plus.
Parce qu'on n'est plus capable d'identifier sa colère, en fait.
Ben voilà, alors après, ça va demander un travail personnel avec un thérapeute, ça va être plus compliqué. Alors que si on accepte de prendre les émotions de façon primaire, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, et de les comprendre, eh bien, du coup, on aura plus facilement la possibilité d'utiliser l'émotion comme une information, mais juste sur ce qui se passe.
Voilà. Alors ça, c'est le premier piège. Mmh. J'imagine que ce n'est pas le seul.
Non, ce n'est pas le seul. Il y a aussi ce qu'on appelle la collection de timbres. Alors, quand on était enfant dans les épiceries, on collectionnait des timbres dans un petit carnet. Et en fait, ce qu'on appelle la collection de timbres, c'est quand on est frustré ou quand quelque chose ne va pas dans une relation, par exemple. On ne dit rien, on préfère ne rien dire, se taire et laisser passer. Du coup, on va coller un timbre dans son carnet.
On encaisse et on met le timbre.
Voilà, c'est ça. Et du coup, de timbre en timbre, un jour, quand le carnet sera plein, on va se mettre dans une colère effroyable pour un détail. Pas forcément d'ailleurs de façon adaptée, et ça va paraître démesuré, et on va être dans une exagération qui est liée au fait qu'on a collectionné les timbres.
Oui, sans compter que ça peut s'adresser à une personne qui n'a rien à voir avec la question.
Tout à fait. Ça peut, souvent, quand on est très en colère de façon exagérée ou démesurée, on rejoue un scénario qui correspond à des tas de choses qu'on a pu emmagasiner.
Non, et c'est le premier qui passe qui prend.
C'est ça, ça peut être ça. En effet, donc la petite prescription, c'est de dire décoller les timbres tout de suite. Il vaut mieux une petite régulation, un petit choc qu'un grand crack, comme on dit.
Oui, c'est ça. Attachez votre ceinture de sécurité. En clair, exprimez vos émotions tranquillement.
Voilà, c'est ça. Et puis, régulièrement. Hein, exprimer voilà, à chaque fois son désaccord quand on n'est pas d'accord sur une situation, plutôt que d'attendre que le carnet de timbres soit plein.
Bon, et y a-t-il encore d'autres pièges?
Alors, on a ce qu'on appelle l'élastique ou les résurgences du passé. Je pense à certains cadres supérieurs que je peux accueillir et qui sont des gens très brillants, qui ont fait des études dans les grandes écoles et qui connaissent très bien leur sujet quand ils vont intervenir en public, par exemple, et qui sont terrorisés à l'idée d'intervenir en public. Ils vont perdre tous leurs moyens et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc l'idée, c'est de rechercher dans leur histoire ce qui a pu se passer. Alors on retrouve malheureusement les traumatismes de l'estrade et de la récitation à l'école.
Oui, que tous nous avons subi à notre heure.
Voilà. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été bien métabolisé, si on peut dire, une émotion qui n'a pas été suffisamment bien digérée.
Que l'enfant n'a peut-être pas pu exprimer.
Voilà, hein, je pense que les enfants, s'ils peuvent exprimer un mal-être et qu'on peut leur expliquer que c'était normal de se sentir mal à l'aise à ce moment-là, mais que ça n'enlève rien à leur valeur, qu'ils ont droit une fois de ne pas être performants, que ce n'est pas pour ça qu'ils sont des mauvais petits garçons ou des mauvaises petites filles.
Oui, et qu'on peut même peut-être imaginer de le rejouer dans le cadre familial, mais en sketch ou un truc comme ça, quoi.
Ah oui, oui, on peut éventuellement, pour justement, un petit peu comme on dit, quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite sur le cheval pour éviter de garder un mauvais souvenir.
Voilà, et que dans un cadre où il a confiance, peut-être ça va bien se passer du coup pour...
Voilà, l'idée c'est de faire l'expérience à nouveau de la maîtrise de la situation. Pour ne pas rester sur une expérience d'échec ou de perte de contrôle. En fait, c'est ça qui fait peur en général.
Ça, c'est certain, ce n'est pas confortable du tout. Bon, alors, les émotions, il faut les gérer, entre guillemets. Il faut éviter les pièges de l'usage de ces émotions. Mais est-ce qu'elles peuvent être des ressources? Parce que vous disiez, elles ont une fonction, mais... Une utilité?
Oui, oui, elles peuvent être de vraies ressources. D'ailleurs, il y a Goleman qui a parlé de l'intelligence émotionnelle, qui est un monsieur dans les années 95 qui a fait paraître un livre là-dessus. qui explique que l'intelligence émotionnelle, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est la capacité à accepter les émotions, mettre un mot sur ses émotions, à comprendre les émotions des autres et à pouvoir aussi interagir avec l'autre en étant dans l'empathie, en comprenant l'émotion. Et du coup, on va développer une bonne qualité relationnelle. Et Goleman expliquait que c'est quelque chose qui est prédicteur de succès dans la vie sociale, dans la vie tout court, plus que d'avoir un QI élevé, par exemple.
Oui, c'est-à-dire qu'il a plus d'estime pour l'émotionnel que pour le...
Voilà, c'est ce qu'il a appelé le quotient émotionnel, hein, par différence avec le QI. Il a expliqué qu'un quotient émotionnel élevé donc, permet d'avoir une vie sociale riche, variée, et de réussir dans la vie, plus que quand on a un QI élevé.
D'accord, mais c'est vrai que les émotions, c'est de la vie, malgré tout.
Oui, c'est sûr. Alors, l'émotion, c'est quelque chose qui fait qu'on est en effet vivant et qui va permettre aussi d'être créatif. Hein, c'est quelque chose, on a montré, par exemple, en création musicale, que ceux qui expriment leurs émotions vont être plus créatifs en musique que d'autres. Et je pense que ça peut aussi se voir dans d'autres domaines de l'art, par exemple.
Certainement, peut-être même qu'ils s'appuient, qu'ils utilisent, comme je disais tout à l'heure, leurs émotions pour créer de la musique ou de la poésie ou du c'est quoi encore.
Voilà, tout à fait, en effet. Hein, ça peut vraiment être une matière d'œuvre utile pour innover.
Bon, alors, voilà de belles ressources. Est-ce que vous en voyez encore d'autres?
Ah oui, ça permet aussi de prendre des décisions importantes. On a montré qu'une personne qui avait été atteinte d'une tumeur cérébrale et qui avait été opérée, ayant perdu la capacité à ressentir des émotions, n'était plus capable de pouvoir prendre des bonnes décisions. Alors que c'était un financier, donc c'est l'expérience d'Eliott, hein, c'était un financier de haut vol qui faisait des placements risqués, qui marchait très bien jusqu'à cette malheureuse expérience.
Parce que ça lui a oblitéré son intuition.
Voilà,
sorte.
Tout à fait. Hein, je pense que l'intuition, c'est vraiment ça qui est important dans la stratégie, dans le risque, dans la prise de risque. C'est ça qui va permettre de réduire les risques.
Voilà, alors il nous reste 2 minutes ou à peu près et en fait jusque-là on a parlé des émotions, même si elles peuvent nous submerger, que l'on arrive plus ou moins à gérer justement, mais il y a parmi nos auditeurs des gens qui sont extrêmement émotifs et qui disent « mais moi comment je peux m'y prendre ?» parce que vraiment à chaque fois ça me déborde et j'ai beau dire « je vais accepter la vague », je suis cul par-dessus tête et je ne sais plus quoi faire.
Alors accepter la vague c'est une première chose, après c'est qu'est-ce que je fais de cette vague-là et qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Moi je pense qu'il y a un vrai travail à faire de réflexion sur qu'est-ce qui se passe pour moi quand je suis submergée par cette vague. Et plus on va activer ce raisonnement-là, plus on va apprendre à gérer.
Voilà. Justement. Et quand on n'y arrive pas tout seul, est-ce qu'on peut se faire aider?
Oui, quand il y a vraiment une hyper-émotivité importante, ça vaut le coup de se faire aider par un psychologue ou un psychothérapeute qui va savoir aider au décodage, justement, et voir à quoi c'est relié.
Il y a des thérapies efficaces pour ça?
Alors, on a les TCC, oui, les thérapies cognitivo-comportementalistes.
Merci de le préciser, parce que je pense que tout le monde ne l'avait pas dans le texte. Bon, alors voilà, je pense que grâce à votre intervention, chacun d'entre nous a un petit début de piste pour, apprendre à connaître ses émotions. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire en guise de conclusion, vous qui êtes psychologue du travail, justement, en quoi ça vous est utile?
Alors, l'expression des émotions, c'est la meilleure façon de rester en bonne santé et ça permet aussi de nourrir l'estime de soi et la confiance en soi.
Eh ben,
voilà, donc ça vaut vraiment le coup de travailler dessus et de les utiliser le mieux possible.
Voilà, c'est pas juste un truc de psychologue, c'est bon pour tout le monde. Eh ben, merci Valérie Poubelle d'être venue nous parler de cet intéressant sujet et merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir.